C'est devenu une évidence apparente, apparemment aux yeux de tous nos contemporains, que l'existence de Dieu ne peut pas se prouver, que la question de l'existence de Dieu, et même globalement la question religieuse, se trouve hors du champ du rationnel. L'épisode, d'ailleurs, s'est reproduit pour ceux qui y étaient, lors du récent entretien que j'ai eu ici avec Axel Kahn, qui, comme il est habituel dans ce genre d'entretien, à un moment m'a dit « De toute façon, la question religieuse est hors du rationnel, donc je respecte votre position. » Ce qui est une étrange manière de la respecter, puisque je la respecte en la posant comme irrationnelle. Donc, indiscutable. Donc, je ne discuterai pas de votre position, puisqu'elle est irrationnelle. Je vous la concède comme on concède des goûts et des couleurs dont on ne discute pas. Si bien que, actuellement, les esprits sont paralysés, tétanisés par cette conviction bien installée que, au fond, il y a une forme de tolérance qui consisterait simplement à concéder à la croyance son caractère irrationnel. Et ce qui d'ailleurs rend là aussi, comme je le disais au début dans un autre contexte, rend très difficile la mise en dialogue, parce que je ne peux pas dialoguer avec une position dont j'ai a priori décidé qu'elle était hors du champ du rationnel. On est bien loin d'Aristote, il est vrai qu'on est loin d'Aristote, qui disait... Quand quelqu'un demande s'il faut vénérer les dieux et si la neige est blanche, il n'y a qu'à le frapper. Ce genre de question qui ne se pose pas. Aristote ne posait pas plus la question de l'existence de Dieu que celle de la blancheur de la neige, qui lui semblait une évidence telle que quiconque poserait la question serait fou ou impertinent. Bon, nous sommes dans notre monde, dans un tout autre registre, donc, où la question de l'existence de Dieu donc, est, comme je le disais, placée hors du champ du rationnel, donc hors du champ du discutable. Or, cela ne saurait satisfaire ni à la raison, ni à la foi. J'insiste sur le fait que on ne gagne pas en raison ce que l'on perd dans l'ordre de la foi. Et que la raison n'est pas plus forte pour avoir évincé de son champ les questions métaphysiques, qu'elle est même plus faible. Et que si vraiment la raison était impuissante à parler de Dieu, à rendre compte autant que l'on le peut du mystère, eh bien ce serait un échec terrible pour la raison. Et je crois que bien des gens qui se présentent comme rationalistes acceptent, au fond, cet échec de la raison qui doit renoncer aux questions qui lui sont les plus chères. Pour ne plus s'occuper que de celles qui sont praticables, de celles qui peuvent prendre la forme d'un énoncé, mais qui... au fond, correspondent à une auto-limitation de la raison qui s'interdirait de dépasser le champ de ce que l'on appelle l'expérience, ça reste à voir, se réduisant au champ de l'opératoire, au champ de la technique. C'est un grand désaveu de la raison que de la réduire au champ de l'opératoire et au champ de la technique. Si tel était le cas, il faudrait bien entendu enlever les programmes de philosophie, le chapitre de métaphysique. Bon, c'est fait depuis longtemps. Mais il faudrait aussi réduire le droit à n'être que un arrangement des volontés réciproques et concurrentes, au détriment de toute vérité. C'est certain. Il faudrait, si la raison devait vraiment être incapable de réaliser ses espérances les plus grandes, il faudrait réduire l'art à être une projection narcissique de nos fantasmes. Si la raison était impuissante à aller au bout de son aventure, au fond, que serait l'école ? Un apprentissage et moyen de réussir. Ah, c'est fait. Mais toute prétention à la vérité, toute prétention à la compréhension de notre ennemi, tout appétit est arrivé. Ce qui fait que, d'ailleurs, l'exercice de la raison est pour nous confondu avec un exercice extrêmement désenchanté, désabusé, amer à savoir, ne se résigne qu'à bricoler des solutions opératoires. Là aussi, on est loin de Descartes, auquel on reviendra. Lorsque Descartes nous dit que un mathématicien athée ne peut pas être un excellent mathématicien. Il est impossible aux yeux de Descartes qu'un mathématicien athée soit un excellent mathématicien. Pourquoi ? Parce que le mathématicien athée est sans doute quelqu'un qui sera parfaitement capable de bricoler des algorithmes, mais au fond, il ne sait pas ce qu'il fait. Et tout ce que les mathématiques comportent d'aspiration à la vérité et même d'aspiration à la contemplation, il doit y renoncer. Et renonçant par là à toute l'histoire des mathématiques, parce que si on avait privé les mathématiciens du goût de la vérité et du goût de la contemplation, eh bien pour le coup, on n'aurait plus eu que des bricoleurs d'algorithmes et on n'aurait plus eu que des grands mathématiciens qui font notre histoire. Donc, une raison qui renonce à la question de Dieu est clairement une raison qui se tarit. Et c'est très clair. Je le vis tous les jours comme professeur. Toutes les matières scolaires, toutes les disciplines sont complètement épuisées quand elles perdent, au fond, ce qui les anime vraiment. C'est qu'en est-il de ma vie, qu'en est-il de Dieu, qu'en est-il de notre destinée? Ce qui nous renvoie aux questions qui nous sont les plus chères. Et Kant nous dit bien que la raison, par son propre mouvement, ne peut que aller jusque-là, montant sans cesse, jusque même à perdre tout support, mais montant sans cesse dans la curiosité qui l'anime, la curiosité qui la met en mouvement. Donc, je ne crois pas que la raison ait beaucoup à gagner à cette scission d'avec la question de Dieu. Mais la foi ne peut pas davantage se satisfaire de ce sacrifice de la raison. Et on concevrait mal que quelqu'un se dise croyant en acceptant d'affirmer que sa foi est absurde. Qu'elle est un sentiment, une impression. Ah, je peux pas te le dire, mais je le sens comme ça. Et si vraiment la foi devait entraîner le désaveu de la raison, il y a le fort à parier que le croyant ne maintienne sa profession de foi qu'à condition d'un désaveu secret de lui-même, d'un infantilisme accepté. Et il y a bien des fidéismes qui disent « la foi est une réalité trop mystérieuse pour qu'on en rende compte », qui sont au fond des infantilismes secrètement acceptés. Si c'est bien l'être tout entier qui est porté vers Dieu, il y a quand même quelque chance, si Dieu est Dieu, il y a quelque chance que ce soit l'être tout entier qui soit porté vers Dieu. Si c'est bien l'être tout entier qui est porté vers Dieu, alors oui, il est porté dans sa chair, il est porté dans ses sentiments, il est porté dans ses amours, dans son art, etc. Mais il est porté aussi dans sa raison. Et je ne vois pas pourquoi il serait exigé de sacrifier sa raison sur l'autel de la foi et de s'abriter dans un bunker d'absurdité pour se dérober à l'interrogation. Plus et plus grave. Même du point de vue de la foi, surtout du point de vue de la foi, si vraiment la foi ne pouvait pas rendre compte de sa propre rationalité, alors elle n'aurait pas d'autre issue que la violence. Parce que ce que je ne peux pas justifier, eh bien je ne peux que l'imposer. La racine même de la violence, la racine du fanatisme, c'est l'irrationalité de la foi. Et c'est donc pas un grand acte de foi, c'est le plus faible acte de foi que le fanatisme. C'est-à-dire l'aveu de celui qui reconnaît qu'il ne peut pas rendre raison de ce qu'il dit. La raison, ça, c'est l'acte de foi du philosophe. La raison, c'est la forme naturelle de la non-violence. Hegel disait, la raison, c'est la forme naturelle de l'amitié. Car la raison est le moyen que nous avons de faire de l'autre un semblable. De faire d'un étranger quelqu'un avec qui on peut discuter. C'est-à-dire quelqu'un qui a une autre culture, qui a une autre couleur de peau, qui a une autre langue, quelqu'un avec qui on peut discuter. Et la seule possibilité que nous ayons de lever l'horizon toujours présent de la violence, c'est le sain exercice de la raison qui nous ouvre au terrain commun des hommes. La preuve nous situe donc, les preuves de l'existence de Dieu, je discuterai de vos preuves en son temps, la preuve nous situe donc dans le champ du discutable, dans ce que j'appelais donc le terrain commun des hommes, et elle célèbre par là même les promesses et de la raison dans son appétit métaphysique et de la foi dans son souci de cohérence qui ne pourrait pas se maintenir longtemps adulte si elle devait se réfugier dans le sentiment. D'ailleurs, le mot « preuve », je l'ai accepté, et je l'ai pris dans mon titre, parce que c'est le mot que nous utilisons tous, donc ça permet d'avoir de reconnaître de quoi il est question. Mais le mot « preuve » est assez récent, et il est évidemment une source de grand malentendu. Les philosophes, dignes de ce nom, sauf à partir de Kant, ne parlent pas de « preuve ». Ils disent « des raisons de croire ». Ils disent des voies. Saint Thomas d'Aquin dit des voies. Voies. V-O-I-E-S. Car les voies, V-O-I-X, c'est distance de corps. Ils disent un argument. Le mot preuve est manifestement surdéterminé. Et évidemment, une fois qu'on a surdéterminé le mot, il est aisé de lui nier sa validité. Si on en demande trop, il est évidemment facile de refuser beaucoup. Et donc jamais la philosophie n'a prétendu parler de preuves de l'Église lyonnaise. Je vous la referai plusieurs fois dans la soirée. La philosophie n'a jamais parlé de preuves, elle parle donc de raisons, de voies, d'arguments, etc. Il faut se rappeler, toutefois, que si l'on cherche à prouver, donc gardons le mot, si l'on cherche à prouver, c'est pour deux raisons. La première, c'est que ça nous semble important. Si vous êtes là ce soir, si vous trouvez qu'il est important de savoir si l'on peut prouver Dieu ou pas, c'est que vous êtes croyant. Parce que si vous trouvez que la question est importante, c'est que vous êtes croyant. Si vous n'étiez pas croyant du tout, vous passeriez devant la question sans la voir. Et donc si vous vous dites actuellement... je ne sais pas quoi, athée, agnostique, en recherche, ne sachant pas où vous mettre dans le curseur de la foi à la non-foi, si vous gardez à l'idée que cette question est importante, c'est qu'au fond, vous en avez perçu l'enjeu et que d'une manière ou d'une autre, vous avez la foi. Donc on ne cherche pas à prouver ce qui nous semble indifférent. Et la deuxième raison pour laquelle on cherche à prouver, c'est qu'il n'y a pas d'évidence. Donc il faut aussi penser à cela en démarrant. Si nous parlons de raison de croire, si nous parlons de preuve de l'existence de Dieu, c'est que cette existence de Dieu ne se donne pas dans l'évidence. Qu'elle comporte, mais au fond, comme toute expérience humaine, une certaine autorité. Et je mets au défi quiconque de me trouver une seule expérience humaine qui fasse l'objet d'une preuve, le sens absolu et irréversible d'un savoir qui conduirait par lui-même à une croyance. Le développement que je ferai, que je vais essayer de faire, comportera trois moments. Ça, c'était une introduction. Un premier moment rapide. Qu'est-ce qu'une preuve ? Je passerai très vite, hélas. Un deuxième moment dans lequel je parcourrai trop vite un certain nombre de voies vers Dieu, classique des grands moments de la philosophie, et un troisième moment dans lequel j'essaierai de mesurer la portée de ces preuves, ce qu'elle est vraiment leur signification, ce que l'on peut en attendre, et leur relation éventuelle avec la foi. Premièrement, qu'est-ce qu'une preuve ? Une preuve, c'est établir par un raisonnement ce qui ne se donne pas dans l'évidence. C'est donc passer de quelque chose de clair à quelque chose qui n'était pas clair. Et mettre en lumière par ce raisonnement ce qui n'est pas donné immédiatement à l'observation. Quand on cherche la preuve de la culpabilité de Omar m'a tué, on cherche par un raisonnement à atteindre ce qui n'est pas immédiatement donné à l'observation, même si quelqu'un a écrit sur le mur de la cave « Omar m'a tué avec son sang ». Et une photo. Ces inférences sont de deux types, a posteriori et a priori. Je passe vite. A posteriori, donc ça signifie en fonction de l'expérience, après l'expérience, après le donné. Et donc c'est la démarche de l'induction de l'esprit qui remonte à ce qui est donné à son observation. De ce qui est donné à son observation à ce qui échappe à son observation, mais qu'il ne peut atteindre qu'au terme d'une enquête. Cette enquête aboutit à la détermination d'une... Alors c'est un point très important pour la suite de notre propos. Si je suis pas clair, enfin, m'aider à revenir dessus... Cette enquête aboutit à la détermination d'une propriété. L'enquête n'aboutit pas à une existence, à l'établissement d'une existence, mais à l'établissement d'une propriété. Un exemple célèbre d'enquête, les livres, tiens, j'aurais dû commencer comme ça, les libres penseurs, à la fin de leur enquête, lèvent leur verre et disent: si Dieu existe, qu'il me foudroie. Jusqu'à présent, vous m'informez, aucun n'a été foudroyé. Qu'est-ce qu'il vérifie ? Non pas que Dieu n'existe pas, mais que Dieu ne foudroie pas les imbéciles. Et que foudroie n'est pas une propriété de Dieu. On a vérifié. Foudroie n'est pas une propriété de Dieu. Ça enlève déjà Zeus. Et ça dénonce l'archaïsme de ceux qui font ce geste. Voilà. Donc on vérifie non pas l'existence, mais une propriété. L'enquête scientifique vérifie les propriétés de l'eau, les propriétés du carbone, les propriétés de l'électricité, que le rapport entre la pression et le volume est constant. Et on détermine que le rapport entre la pression et le volume est constant au terme d'observation et d'expérience. Cette démarche a posteriori repose en effet d'une part sur l'observation pour les phénomènes que l'on ne peut pas modifier, sur lesquels on ne peut pas intervenir. Par exemple, en astronomie, on intervient assez difficilement sur la course des planètes. Donc, on observe cette course et on en déduit un certain nombre de régularités. Et ces régularités sont vérifiées par les prévisions réussies. Dans l'ordre de la connaissance, si Dieu existe, il me faudra. Dans l'ordre de la connaissance, les inductions se font avec des prévisions réussies. Et si je me dis que la loi que j'ai élaborée est la bonne, je peux prévoir quelle sera l'occurrence de tel ou tel phénomène, par exemple de telle planète, qui se donnera à nouveau à l'observation au bout de ma lunette. C'est ce qui se passe pour l'enquête policière dans sa quête de preuves. Si l'enquête policière cherche des preuves, ça n'est jamais que pour tenir des raisonnements probables permettant de faire un récit cohérent intégrant le mégot de cigarette et le cheveu. À charge pour quelqu'un d'autre de faire un récit plus simple et plus cohérent intégrant le mégot de cigarette, le cheveu et la trace de pneu. Et à mesure que j'introduirai, outre la trace de pneu, l'agenda, j'introduirai des éléments qui me permettront, a posteriori, au terme d'une enquête, de faire des hypothèses très serrées. Mais, ce qu'on appelle preuve, n'est jamais qu'un indice dans un récit. Qui permet l'hypothèse très serré, plus ou moins serré. Nous avons plus de preuves de l'existence de Jeanne d'Arc que de Jules César, dont on sait combien et au fond qui est. Et encore moins Vercingétorix. Voilà, on dit Vercingétorix, on a deux, trois, on a grosso modo rien du nommé Vercingétorix, on en parle. Donc on a peut-être un, deux, trois éléments, un mégot de cigarette qui est resté, une bourgeoise. Avec ces éléments, ben, on fait une enquête et on fait l'hypothèse qu'il y a dû exister quelque chose comme un Vercingétorix. C'est une hypothèse assez faible. Les enquêtes sur les personnages historiques, c'est comme ça. C'est des portraits robots que nous faisons par hypothèse croisée en fonction des indices dont nous disposons. Il en va autrement dans l'expérimentation, car dans l'expérimentation, à la différence de l'observation, je peux intervenir dans le phénomène, je peux donc modifier ce phénomène pour obtenir le résultat escompté et vérifier ainsi une loi. Voilà. Ça, c'est la démarche a posteriori, à partir de l'observation, à partir de l'expérimentation. Deuxième démarche, la démarche a priori. Celle qui procède par démonstration, déduction. Dans la démarche a priori, on développe les conséquences d'une hypothèse ou d'une définition. Et en développant les conséquences d'une hypothèse et d'une définition, on obtient la mise en évidence de résultats qui sont cohérents avec cette hypothèse ou cette définition. C'est ainsi que procède généralement la déduction mathématique. Et donc c'est ainsi que l'on pourra prouver que ce triangle est bien un triangle isocèle, parce que les bisectrices se coupent, ou alors on pourra prouver que les bisectrices se coupent parce que ce triangle est bien un triangle isocèle. Ça marche dans l'un et l'autre sens. Je peux, d'une définition, déduire une propriété remarquable, de manière hâtive. Je ne m'arrête pas plus longtemps. Qu'en est-il des raisons de pas? Eh bien, s'agissant des raisons de pas, on va retrouver la démarche a posteriori et la démarche a priori. Démarche a posteriori, on part de ce qu'on observe. Partant de ce qu'on observe, on ne peut que, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, on ne peut que remonter des effets à la cause. C'est la raison pour laquelle saint Thomas d'Aquin insiste sur le fait que nous ne pouvons pas connaître l'essence de Dieu, nous ne pouvons pas le contempler directement dans une espèce d'évidence, nous ne pouvons que l'appréhender à partir des effets de ses traces dans notre expérience. Remontant, donc par induction, des effets à la cause, et donc notre connaissance de Dieu ne peut pas prétendre être une preuve de son existence au sens absolu du terme. Chez saint Thomas d'Aquin, cette affirmation de Dieu reste tout empirique à partir du donné du monde qui s'impose à moi à l'observation et fait naître la question de son ordre, la question de son origine. Dans la somme théologique, à l'article 12 de la question 12, on peut lire « Notre connaissance naturelle prend son origine des sens, et il s'ensuit que notre connaissance naturelle peut s'étendre aussi loin que les objets sensibles. Or, à partir des objets sensibles, notre intellect ne peut parvenir jusqu'à voir l'essence divine, car les créatures sensibles sont des effets de Dieu qui n'égalent pas la vertu de leur cause. Pour cette raison, à partir de la connaissance des choses sensibles, on ne peut connaître toute la puissance de Dieu, ni par suite voir son essence. Toutefois, puisque les effets dépendent de la cause, nous pouvons être conduits par eux à connaître ici de Dieu qu'il est, et à connaître les attributs qui lui conviennent en tant que cause de ses effets. Donc, nous connaissons de Dieu sa relation aux créatures, à savoir qu'il est cause de toutes choses. Et nous connaissons aussi la différence des créatures par rapport à lui, qui consiste en ce qu'il n'est lui-même rien de ce que sont les effets. Et c'est ainsi que saint Thomas d'Aquin donc propose les voies vers l'affirmation de Dieu. Donc ces voies consistent toutes à dire ce monde qui nous est donné à l'observation appelle une explication. Et cette explication sollicite donc l'idée d'un créateur qui fonde l'ordre des choses. Certes, je parlais tout à l'heure de rationalité procédurale, de rationalité purement calculatrice. Certes, je peux manipuler l'ordre des choses. Je peux avoir, par cette connaissance de l'ordre des choses, des résultats satisfaisants. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qui fonde cet ordre des choses. Comment se fait-il que les choses soient ordonnées de telle sorte que je peux escompter un résultat? Comment se fait-il que le monde ne soit pas insensé? C'est ce que disait Einstein. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que le monde soit compréhensible. Ce qui est le plus étonnant, c'est que nous ne sommes pas dans une nuit, quoi que dise la littérature contemporaine. et que la science nous donne des moyens de faire des prévisions avec succès, d'avoir quelque chose de l'intelligibilité du monde. Ça, c'est un point vraiment essentiel. C'est le point qui a fondé l'Occident, c'est le point qui fonde l'Occident. L'Occident est fondé sur la philosophie des présocratiques, et qu'est-ce que les présocratiques nous ont dit ? Un logos gouverne le monde. Ce monde est intelligible. Et si ce monde est intelligible, alors les terreurs tragiques sont dissipées. Les terreurs de la superstition, les terreurs de des sacrifices sont dissipées. Si ce monde est intelligible, ça veut dire qu'au sein de ce monde, je peux avoir une conduite intelligible. Un logos gouverne le monde, dit quel gouverne le monde. C'est même ce que dit Héraclite. Le soleil ne dérogera pas de sa course. Vous rendez compte? Le soleil ne dérogera pas de sa course, sinon Dike, Dike c'est la justice. Sinon Dike ira chercher. La justice ira chercher. Une justice gouverne le monde. C'est l'acte de foi de tout l'Occident, et c'est cet acte de foi qui s'accomplit dans la foi en un Dieu créateur. Alors on ne va pas résumer tous les arguments, je me contente de dire que au fond, ils reviennent tous à dire que il est impossible qu'un ordre naisse d'un désordre. Et que là où il y a un ordre, je peux légitimement penser qu'il y a un sens. Vous vous promenez dans la forêt, vous voyez des cailloux disposés en rond, vous ne penserez jamais qu'ils sont là par hasard. Vous direz, il y a eu un camp scout, une cérémonie nazie, une liturgie druidique. L'idée même de l'ordre permet de penser bien légitimement une intention. Je sais qu'on peut décrire l'ordre sans y voir une intention. Je sais qu'on peut faire la grammaire d'un texte sans se préoccuper de son sens. Si le texte a une grammaire, il peut avoir du sens. Donc, je peux savoir que le monde est comme un texte, il a une grammaire, il a même tellement une grammaire que je peux reproduire derrière des phrases semblables à celles de ce texte. Je sais en quelque sorte écrire la suite de ce texte, bien que je ne connaisse pas le sens. Mais qu'il ait une grammaire me permet de penser solidement, légitimement, qu'il est possible qu'il ait un sens. C'est-à-dire qu'il est possible qu'une liberté soit inscrite. Car qu'est-ce que ça veut dire avoir un sens? Ça veut dire une liberté peut y faire son chemin. Une liberté peut s'y reconnaître. Donc, je ne pêche pas contre la raison. Au contraire, je vais pleinement dans le sens de la raison, et toute la raison telle qu'elle a été fondée à l'Occident, lorsque je dis, bien dans ce monde qui me manifeste un ordre tel que je peux y agir, je ne pêche pas contre la raison si je dis qu'il a un sens et que je peux y lire une intention. Et c'est justement ça, au fond, le sens de l'enquête. Et c'est pour ça que Descartes pouvait penser qu'un mathématicien athée était un mauvais mathématicien. Parce qu'il n'allait pas au bout de la logique de l'enquête, dégageant la structure de la phrase, sans se préoccuper de son sens. Les structuralistes nous ont régalé de ces beaux exercices. La démarche a posteriori, qui va donc de l'existence des effets ordonnés à l'affirmation d'une création, a été, je crois, considérablement éclairé par Descartes et par Pascal. En effet, Descartes et Pascal sont contemporains et acteurs de la naissance de la science moderne. Cette science moderne, dont ils sont les acteurs principaux, quelques-uns des acteurs principaux, elle repose sur le principe de la causalité, du déterminisme causal. Il est difficile. Parce que le déterminisme causal me permet de penser que l'ordre peut résulter d'un choc tout mécanique des causes. J'évoquais tout à l'heure un cercle de cailloux, mais au bord des torrents, il y a des marmites superbes qui sont comme taillées par le torrent, par des chocs aveugles d'atomes. Et si je voyais dans cet ordre superbe des marmites au bord des torrents une intention de quelqu'un qui a creusé une marmite, je ferais un pas de plus, un pas de trop. Donc, le grand pari de la science moderne, moderne 17e, le grand pari de la science moderne, c'est de comprendre l'ordre sur le modèle du mécanique. D'où le corps-machine, d'où... la politique de Louis XIV, d'où la naissance des États modernes qui veulent penser les sociétés comme des mécaniques, on y est encore. D'où Versailles. Donc cette idée que le monde serait intelligible comme une horlogerie. Alors c'est vrai, dans une horlogerie, j'ai un ordre, j'ai une régularité, mais j'ai un jeu aveugle de cause. D'où l'inintelligibilité pour nous de l'idée de Dieu créateur. Parce que si vous pensez le monde comme une machine, vous ne pouvez plus penser Dieu comme créateur. Car si vous pensez le monde comme une machine, vous pensez Dieu comme, selon le mot de Pascal, une première chicane. Dieu a donné une première chicane, a lancé le monde et a dit, oh, quelle boulette. Si j'ai uniquement un raisonnement déterministe qui remonte de cause antécédente en cause antécédente, alors Dieu n'est plus qu'un potentat, un ingénieur, un horloger. Et l'idée de création devient complètement inintelligible. Et donc, la lecture mécaniste du monde, en effet, rend impossible de penser Dieu créateur. D'ailleurs, on le sait bien, car ce bon vieil Aristote disait dans Métaphysique lambda 7 que Dieu crée le monde sur le mode du désirable. Il ne crée pas le monde sur le mode de la chicane. Dieu crée le monde en lui disant « viens ». En attirant le monde à soi, et non pas en le jetant comme on jette un objet, comme on jette une boule dans un jeu de boule. Et donc effectivement, l'idée de la création, elle est tout entière sous-tendue par cette idée que l'ordre du monde est censé, comme je le disais, alors que si cet ordre du monde est tout mécanique, il n'est pas censé, il ne rend pas compte d'un sens. Voilà donc Descartes et Pascal contemporains de cette naissance de la science avec un modèle mécaniste qui entraîne le désaveu de la difficulté à comprendre l'idée de Dieu, si ce n'est sous la forme d'horloger, et après ça donne le Dieu horloger, le Voltaire, et tout comme ça. Qui piège le destin. Descartes et Pascal ont, bien qu'ils se soient rencontrés sans beaucoup s'aimer, la même intuition, c'est que c'est pas du monde qu'il faut partir, mais de l'homme. Dans les pensées, il y a un joli fragment que j'aime beaucoup, où Pascal imagine un dialogue disant « Et alors quoi, vous ne trouvez pas Dieu par les petits oiseaux ?»« Non, dit-il, et je prendrai tout par la manière dont le cœur de l'homme est fait. » Pourquoi faut-il partir de l'homme et non pas du monde? Parce que l'expérience que fait l'homme dans ce monde mécanique et l'expérience que fait plus que tout autre Descartes dans, ce, dans l'expérience du cogito, c'est celle de sa liberté. Voilà. Ce dont il importe de rendre compte, ce n'est pas de l'enchaînement des causes, mais c'est de la présence de liberté dans ce monde. Et voilà pourquoi Pascal dit, il y a bien plus étonnant que le monde. Il y a le fait que je m'en étonne. Il y a bien plus étonnant que le monde qui m'englobe, c'est moi qui l'englobe par la pensée. Et la pierre qui m'écrase ne me retire pas ma dignité, car moi je pense la pierre ne me pense pas. Et à ce moment-là, on peut comprendre l'idée de création. Car si l'idée de création est une chiquenaude, alors je ne suis pas libre. Je suis une boule dans un jeu de billard. Mais si la création est un appel, si la création est une suscitation de l'être, alors je suis appelé dans ma liberté. Si bien que dans ce monde, l'effet le plus sûr de l'œuvre créatrice de Dieu, ce n'est pas les fleurs et les oiseaux, c'est la liberté humaine. Car à la rigueur, les fleurs et les oiseaux, je peux en rendre compte par des mécanismes. Mais la liberté humaine est irréductible au mécanisme qu'elle décrit elle-même d'ailleurs. Et tel est l'enjeu de l'œuvre de Descartes, tel est l'enjeu de l'œuvre de la science. En effet, lorsque Descartes, alors je vais essayer, là aussi, si je n'étais pas clair, je le regretterais vraiment beaucoup, parce que c'est parmi les plus belles pages de philosophie, peut-être les plus belles pages de philosophie, parce que c'est assez fait. Sinon, allez lire la troisième méditation métaphysique de Descartes. Là encore, faut pas y penser sans mettre en colère quand même, quelle laïcité imbécile que la nôtre, qui limite Descartes au cogito, sans même oser dire que Descartes a prouvé l'existence du Dieu. C'est absolument scandaleux. Ce qui intéresse Descartes, c'est pas le cogito, ce qui intéresse Descartes, c'est... Et personne n'a la curiosité de se demander quel est le cogitatum du cogito. Je pense, et il pense quoi, le gars? Je pense. Et le texte est coupé, on sait pas à quoi il pense. Il s'ennuie. Bon. Ah, ce que dit Descartes? Voilà. Je fais l'expérience que je suis un être de pensée. Je fais l'expérience que je suis un être de pensée, je vous le résume en trahissant. C'est moi aussi. Je fais l'expérience que je suis un être de pensée, ce qui veut dire que je fais simultanément l'expérience et de ma déficience. Et de la déficience, parce que je fais l'expérience que je suis un être de pensée en tant que je doute. Donc le jeu de Descartes, c'est pas le jeu triomphant qui dit « je vais dominer ». Il commence par un dubito, par un jeu doute. Donc il commence par l'expérience de sa déficience. Il sait qu'il n'est pas autosuffisant. Il sait qu'il est une liberté qui ne s'explique pas par elle-même. Voilà. Aussitôt que je sais que je suis une liberté, je sais que je ne m'explique pas par moi-même, car cette liberté, je la découvre dans une faille. Ma propre contingence. Et d'autre part, cette expérience de la liberté, elle est celle d'une défaillance, mais elle est irréductible. Elle est impossible à reconduire à des causes antérieures. Alors, au terme de la troisième méditation, Descartes dit « Je ne peux donc pas expliquer mon existence par celle de mes parents. » Parce que là, je suis dans l'ordre des causes mécaniques. Donc, mes parents peuvent peut-être rendre compte du fait que je suis né à Vèze en 1926, mais ils ne rendront pas compte du fait que je suis libre. Et donc, l'idée de Dieu, c'est celle de la causalité pour une liberté. Dieu n'a pas pour rôle ici de rendre compte de la facticité des choses, mais de la réalité de la liberté. irréductible, justement, à l'ordre des choses. Car j'ai en moi, dit Descartes, l'idée de parfait, l'idée d'infini, que je n'ai pas pu engendrer moi-même, moi qui me sais défaillant. Voilà. La preuve de l'existence de Dieu, a posteriori, à partir de l'ordre des choses, nous remontons des faits à la cause. Mais dans les effets, il y a un effet tout à fait inouï, c'est la liberté. Et toute la démarche de Pascal revient à la même chose, bon, on ne va pas reprendre les analyses, je suis venu assez vite, mais à proprement parler, dira plus tard Claude Bruère, mais Descartes n'est pas loin de s'exprimer comme ça, à proprement parler, il n'y a que d'une liberté que l'on puisse dire qu'elle est créée. C'est-à-dire le sens de création ex nihilo. Si on dit création ex nihilo, c'est pas pour dire que Dieu est vachement costaud. C'est pour dire que une liberté ne s'explique pas par l'enchaînement antécédent des causes. Je suis né à Vèze en 1926, et c'est pas ça qui va rendre compte du fait que je suis libre. Et donc il y a un irréductible de la liberté qui conduit à l'absolu de Dieu. C'est une démarche tout empirique, c'est-à-dire qu'on part de l'expérience. Le mot constant de Descartes, c'est extérieur, extérieur, j'expérimente que je suis libre, j'expérimente que je suis irréductiblement libre et que cette liberté n'est pas autosuffisante. C'est pour ça que le cogito est un cogitatum. Et donc ça, c'est une démarche expérimentale, c'est-à-dire a posteriori. Démarche a priori, sur laquelle je vais devoir passer trop vite, certains sans doute la connaissent, c'est ce très beau texte. Là, je suis heureux, je parcours avec vous des pages superbes, je sais pas si c'est... Je faire ça. Démarche a priori, qui est le très beau texte de Saint-Anselme, que plus tard, Kant appellera argumentologique, ce qui n'est pas très heureux, car ce n'est pas très argument, c'est pas très ontologique, mais donc Saint-Anselme, qui est un théologien et philosophe du XIe siècle, produit l'argument a priori pour l'existence de Dieu, c'est-à-dire, je rappelle ce que c'est qu'un argument a priori, c'est ce que je peux déduire de manière cohérente d'une définition. Et l'argument de Saint-Anselme consiste à dire, alors, j'avais prévu de vous le faire passer,
on va pas faire passer au hasard. Je sais pas,
j'aimerais pouvoir avec vous le faire massacrer cette. Alors la première chose qui frappe en lisant ce texte, c'est que nous nous trouvons non pas dans un argument, dans une prière. Et que l'argument est inséparable de la prière. Car la raison, en Saint-Anselme, est ouverte à la révélation. La raison demande à Dieu de l'éclairer. C'est pas une raison close sur elle-même, c'est pas une raison militante et cadassée, c'est une raison ouverte au mystère, ouverte à la disponibilité au mystère, c'est la raison de Socrate. Et c'est si vrai que dans le texte qui précède, Saint Anselme, dans sa prière, supplie Dieu de l'éclairer. Je vous lis les lignes qui précèdent, qui sont très célèbres et très belles. En te désirant, je te cherche. En te cherchant, je te désire. Que je cherche en aimant et que j'aime en trouvant. J'avoue, Seigneur, et je rends grâce. Tu as créé en moi cette image de toi pour que, me souvenant de toi, je pense à toi et je t'aime. Mais le frottement des vices l'a tellement effacé, la fumée des péchés l'a tellement noirci, qu'elle ne peut faire cette image, ce pourquoi elle fut faite, à moins que tu ne la rénoves. Seigneur, je ne tente pas de pénétrer ta hauteur, car je ne lui compare en rien mon intellect, mais j'aspire à comprendre, la foi veut comprendre. J'aspire à comprendre un peu la vérité que mon cœur croit et aime. Et en effet, ce n'est pas pour croire que je cherche, et c'est pour comprendre que je crois. Je relis cette phrase très célèbre. Ce n'est pas pour croire que je cherche à comprendre, ce n'est pas pour croire que je cherche à comprendre, mais c'est pour comprendre que je crois. Ça, je l'éclairerai à la fin de cet exposé, si j'y arrive. C'est que, il est évident que le but des preuves n'est pas de donner la foi. Peut-être complètement sot pour demander ça. Mais c'est en revanche la foi qui veut comprendre. Et il y a un acte de foi dans l'exercice même de l'intelligence. Personne n'ouvre un livre en pensant qu'il est sûr. Vous ouvrez un livre, vous commencez par un acte de foi. Vous n'avez pas même un livre d'Alexandre Jardin, quand on l'ouvre, on se dit, ça doit quand même bien avoir du sens. Parfois, on est difficile. Alors, chapitre 2, que vous avez sous les yeux. Donc, Seigneur, toi, je vous fais remarquer que chez Descartes, c'est la même chose. Lisez la troisième méditation de Descartes, elle se termine par une contemplation. La troisième méditation de Descartes se termine par une prière. Il ne faut pas l'oublier. Et on a la même chose ici. Toi donc, Seigneur, qui donne l'intellect à la foi, donne-moi autant que tu sais faire de comprendre que tu es. Et que tu es ce que nous croyons. Certes, nous croyons que tu es quelque chose de tel que rien ne peut se penser de plus grand. C'est ça l'effigie. N'y a-t-il pas une nature telle parce que l'insensé a dit dans son cœur, Dieu n'est pas. Mais il est bien certain que ce même insensé, quand il entend cela même que je dis, deux points, la définition, quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand, comprend ce qu'il entend. Que ce qu'il comprend est dans son intellect, même s'il ne comprend pas que ce quelque chose est. Car c'est une chose d'avoir quelque chose dans l'intellect et autre chose de comprendre que ce quelque chose est en dehors de l'intellect. En effet, quand le peintre prémédite ce qu'il va faire, il a certes dans l'intellect ce qu'il n'a pas encore fait, mais il comprend que cette chose n'est pas encore. Mais une fois qu'il l'a peinte, d'une part, il l'a dans l'intellect, il a dans l'intellect ce qu'il a fait, et d'autre part, il comprend que cela est. Donc, l'insensé, l'incroyant, dit bien que Dieu est l'être le plus parfait. Tout le monde, ceux qui affirment que Dieu existe, et ceux qui affirment que Dieu n'existe pas, définissent Dieu comme l'être le plus parfait. Donc, l'insensé aussi, il lui faut convenir qu'il y a bien dans l'intellect quelque chose de tel que rien ne peut se penser de plus grand, puisqu'il comprend ce qu'il entend, et que tout ce qui est compris est dans l'intellect. Et il est bien certain que ce qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand ne peut être seulement dans l'intellect. Car si c'est seulement dans l'intellect, alors on peut penser que ce soit aussi dans la réalité ce qui est plus grand. Si donc ce qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand est seulement dans l'intellect, cela même qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand est tel qu'on peut penser quelque chose de plus grand encore qui serait en dehors de l'intellect. C'est-à-dire, l'affirmation que l'être parfait n'existe pas est contradictoire, car si j'affirme que l'être parfait n'existe pas. Il y a un être plus parfait qui en nous existe. L'argument est d'une rigueur parfaite. Il est entièrement déduit de la définition de Dieu. C'est l'argument que reprendra Descartes, que reprendra Spinoza, que reprendra Leibniz, que reprendra tous Hegel. Il est contradictoire avec la définition de Dieu d'affirmer qu'il n'existe pas. Parce que si je l'affirme parfait, si je l'affirme n'être plus parfait, alors je peux penser qu'il y en a un autre, et que je dis qu'il n'existe pas, alors je peux penser qu'il y a un être plus parfait encore qui en outre existe. Cela se résume en latin, si Deus est ce Deus, Deus est. C'est tout facile. Si Dieu est Dieu, Dieu est. Spinoza glosera là-dessus en disant, un être existe à proportion de sa perfection. Plus il est parfait, plus il existe. Et donc l'être le plus parfait existe nécessairement. Un être n'existe pas en fonction de son imperfection, mais en fonction de sa perfection. L'être le plus parfait est celui qui existe le plus parfaitement. La démonstration est entièrement a priori et elle est indiscutable. Entièrement a priori, ça veut dire qu'elle est entièrement déduite de la définition. Celui qui dit Dieu n'existe pas dit quelque chose de contradictoire. Celui qui dit que Dieu existe dit quelque chose qui n'est pas contradictoire. Il dit même la seule chose dont rationnellement on puisse rendre compte. Voilà. Démarche a posteriori, qui part des effets à la cause, ces effets, c'est l'effet monde et c'est l'effet sujet, démarche a priori, la plus belle, je l'ai un peu sacrifiée, qui part donc de l'idée même de Dieu, de la définition de Dieu, saisie dans une contemplation, celui qui dit que Dieu n'existe pas et celui qui dit que Dieu existe, disent la même chose, ils définissent tous les deux dieux de la même manière. Seulement, il y en a un qui est contradictoire et un qui n'est pas contradictoire. Bilan. L'affirmation de l'existence de Dieu est bien loin d'être irrationnelle. Elle est même certainement, dans l'ordre des discours humains, le discours le plus rationnel. En tout cas, il faudrait que, ce que dit Pascal, il faudrait que l'athée soit bien fort en raison. Or, l'athée n'est pas bien fort en raison. Parce que précisément, il ne rend pas compte de l'ordre du monde, il ne rend pas compte du sens du monde, et il ne rend pas compte de sa propre démarche de pensée. Donc certainement, qu'est-ce que ça veut dire preuve de l'existence de Dieu, en prenant ce mot preuve avec les bémols qui conviennent, cela veut dire donc que on ne pêche pas contre la raison quand on affirme l'existence de Dieu, non seulement on ne pêche pas contre la raison quand on affirme l'existence de Dieu, mais même on propose certainement les raisons les plus fiables, les plus cohérentes, celle qui installe l'humanité dans sa plus grande liberté. La question que je posais est donc, peut-on prouver l'existence de Dieu ? Oui, c'est-à-dire, affirmer l'existence de Dieu est plus rationnel que d'affirmer sa non-existence. Celui qui est croyant tient un discours plus rationnel que celui qui l'est. Les gens qui demandent des preuves d'existence de Dieu, ils s'en foutent. Si vous aurez beau leur additionner des preuves et des preuves et des preuves, ils continueront de s'en foutre. Et ils ont raison. Parce que l'on puisse justifier l'existence de Dieu n'a jamais donné la foi à personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de conséquence du savoir ou croire. Ça ne veut pas dire que le croire est sans raison. Attention, c'est un dikutsu. Ça ne veut pas dire que le croire est sans raison. Ça veut dire il n'y a pas de conséquence puisse avoir ou pas. La preuve, je donne toujours le même exemple, il n'y a que les nouveaux venus qui l'auront jamais entendu, il y a marqué sur le paquet de cigarettes, fumer tue. J'ai jamais entendu quelqu'un qui dit « Oh, j'aurais voulu une petite preuve de plus, s'il vous plaît. » Il n'y a pas de conséquence du savoir ou pas. Nous savons tous que nous allons mourir, on se croit ou pas. Nous savons tous que Othello, on lui donne des preuves de la fidélité de Desdémone, il ne croit pas. Il n'y a pas de conséquence du savoir ou pas. Et pourquoi n'y a-t-il pas de conséquence de savoir ou croire? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, c'est à cause cela peut être éclairé par la distinction familière à laquelle tout le temps revenir entre croire que et croire en. Les preuves de l'existence de Dieu nous permettent de croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe, croire que Jean-Luc viendra ce soir. Je crois que Jean-Luc viendra ce soir. C'est probable. Probable, ça veut dire, ça peut être prouvé. Donc, les arguments que j'ai donnés, ils sont des arguments probables. Ils sont de l'ordre de ce qui peut être prouvé. Si on peut prouver quelque chose, c'est ça. Mais ce qu'on peut prouver restera toujours de l'ordre du probable. Fumez-tu ? Probable. Je suis mortel ? Un type comme moi, je m'étonnerais. Et je peux juste dire que c'est probable. Mais je n'y crois pas. C'est-à-dire que je ne vis pas en fonction. Et donc, croire que c'est déterminer une hypothèse plus ou moins serrée, comme je le disais à propos de l'enquête, croire en, c'est vivre de ce savoir. C'est vivre avec ce savoir. C'est pas croire d'ailleurs en un savoir, c'est croire en une personne. Jamais personne ne croit en une phrase, on croit en quelqu'un. Croire que Dieu existe, c'est croire en Dieu, c'est pas croire les énoncés de la foi. Non solum, c'est croire en Dieu, mais c'est croire Dieu. Car la question, est-ce que Jean-Luc vient ce soir? Je crois que Jean-Luc vient ce soir. Est-ce que je crois en Jean-Luc? Est-ce que je crois Jean-Luc? L'autre question. C'est la même. C'est pas éclairé de la même façon. Entre le probable et l'acte, il y a toute la distance du risque, il y a tout ce que les philosophes appellent un saut, et, comme pour Fumitu, un renseignement de plus ne diminuera pas l'écart du probable, du certain. Je le répète, c'est la seule chose que je tenais à dire. Un renseignement de plus ne diminuera pas l'écart du probable et du certain. Et je peux toujours dire, encore un petit renseignement, s'il vous plaît. Othello peut dire, tiens, je pourrais pas faire encore une enquête sur Desdémone. Je peux la faire suivre par des policiers. L'écart du probable au certain est infini. Infini au sens où il est irréductible. Et que même si j'interpose des arguments de plus, je continuerai de rester dans le probable. Et c'est la raison pour laquelle Kierkegaard, dans un autre texte somptueux dont il serait bon que j'ai eu le temps de lire, Kierkegaard n'a jamais dit, comme on veut lui faire dire, que Dieu ne se prouve pas. C'est idiot, Kierkegaard. Et ce que dit Kierkegaard, c'est que les preuves de l'existence de Dieu ne donnent pas la foi. Pourquoi? Parce que la foi consiste à lâcher les preuves. Dans une très belle page, Kierkegaard dit, tant que je tiens la preuve, je n'ai pas la foi. Pour avoir la foi, faut que je lâche les preuves. Ce qui ne veut pas dire que la foi est sans preuve. Je peux faire suivre ma femme par des policiers, plus je la fais suivre par des policiers, moins j'aurai confiance en elle. Il y a bien un moment où il faut que je lâche la tête. Tant que je veux la preuve, j'ai pas la confiance. Ce qui ne veut pas dire que la confiance soit aveugle. Il est bon. Ça, c'est le texte que nous avons lu de Saint-Anselme. Je crois pour comprendre. Il est bon que je veux y comprendre. Mais en même temps, l'acte de foi, donc, n'est pas déduit de la démonstration sur le mode d'une conclusion. C'est pourquoi Kierkegaard insiste sur le fait que l'acte de foi n'est pas une conclusion, mais une décision. Et qu'il en va de même, au fond, de toute l'action. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont irrationnelles. Elles sont fondées en raison. Mais c'est pour ça que la pensée de l'existence conduira toujours à aller plus loin que la simple production de l'ordre des raisons. Donc, peut-on prouver l'existence de Dieu ? Oui. C'est-à-dire que, comme je l'ai répété, on peut raisonnablement penser, on est même plus raisonnable de penser que Dieu existe que de penser qu'il n'existe pas. La foi n'est pas irrationnelle. Pensez à la distinction entre rationnel et raisonnable. La foi n'est pas irrationnelle, elle n'est pas rationnelle non plus. Au sens où elle n'est pas entièrement déduite de rationnel, mais elle est raisonnable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vertueuse. Les raisons pour lesquelles j'aime ma femme sont raisonnables. Tour de taille, compte en banque, question intellectuelle. Mais, en même temps, l'amour que j'ai pour elle n'est pas déduit de ces renseignements raisonnables que je peux prendre. Car, au moment où j'aime, il faut que je lâche la peine. Et ce qui ne veut pas dire que je sois irraisonnable. Ainsi, on ne crucifie pas son humanité et encore moins sa raison en faisant un acte de foi. Mais, à la preuve, il faut ajouter, on rentre dans un autre exposé, à la preuve, il faut en quelque sorte ajouter le témoin. C'est-à-dire que le passage du possible au réel ne se fait que par un saut. Et ce saut, il n'y en a qu'un qui puisse le faire, moi. Le rapport à la vérité ne se délègue pas. Ni en matière de philosophie, ni en matière de foi. Et je ne peux pas dire, si vous voulez savoir ce que je pense, allez le demander à mon professeur. Je ne peux pas dire, si vous voulez savoir ce que je pense, allez le demander au père. Le rapport à la vérité ne se délègue pas, il y en a un seul qui puisse porter témoignage pour la vérité, pas de peau, c'est moi. Alors, bien sûr, je peux consulter des autorités, je peux m'entourer d'amis, de bons conseils, etc. Mais le risque qui consiste à dire « je passe du probable au réel », il y en a un seul qui puisse le prendre, c'est moi. Et c'est pourquoi on peut légitimement dire que la foi est de l'ordre du témoignage. Et je me méfie de cette idée. Parce que personne ne peut dire qu'il était, ne peut s'exhiber comme témoin. Personne ne peut dire je suis un témoin. Vous vous rendez compte, c'est pire. Donc, alors faudrait qu'il se rappelle que témoin, ça se dit martyr. Donc je ne peux pas être assuré d'être un bon témoin, mais je suis au moins assuré d'être un bon philosophe, ou d'être quelqu'un qui raisonne à peu près correctement. Mais il est vrai que l'acte de foi en l'existence de Dieu, et ça Pascal a largement insisté là-dessus, il n'existe que dans le geste, dit Pascal, de se mettre à genoux, peu importe, si vous avez mal au genou, mais dans l'incarnation, une décision. Sinon, ça restera une probabilité. Merci.